Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, une invitée, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, je vous présente aujourd'hui Nadine. Nadine, qui est une membre qui est parmi nous depuis quelques années. Elle pourra vous raconter son histoire. Et puis, je suis très heureuse de l'avoir avec moi aujourd'hui. Très heureuse qu'elle vienne à l'émission. Donc, sans plus tarder, elle pourra commencer d'elle-même à vous raconter son cheminement parmi les arts.
Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Nadine et je suis une alcoolique en rétablissement juste pour aujourd'hui. Je dis juste pour aujourd'hui parce que je suis consciente que c'est une maladie sournoise, l'alcoolisme, et qu'il faut toujours que je sois prudente. Donc, pour moi, j'ai un sursis quotidien, une journée à la fois. Donc, je vais commencer par m'identifier un peu d'où je viens. Donc, quand j'étais petite, c'est sûr que j'ai des expériences qui m'ont perturbée. Est-ce que c'est pour ça que j'ai bu puis que je suis devenue alcoolique? Non. Par contre, ça a causé des blessures assez importantes, puis aujourd'hui, j'en suis consciente, et c'est important d'en parler. Donc, c'est ça, moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle, donc avec une mère qui est très, très dépressive, et un père infidèle, violent. Donc, quelqu'un, en fait, qui part à chaque jour. Puis, très tôt, moi, j'ai encore le souvenir aujourd'hui, comme si c'était hier, de voir la voiture Buick bleue de mon père partir, puis moi qui pleure, puis qui cours après en arrière. J'ai aussi le souvenir très profond de mon père qui frappe le mur, qui brise un mur avec son poing, puis moi, je pleure à côté. Donc, c'est sûr que ça a teinté beaucoup mon enfance, puis ça a aussi teinté toute l'image que j'avais des hommes, puis ce que je vais choisir plus tard. Dieu merci, j'ai changé de pattern après plusieurs années de rétablissement. J'ai réalisé des choses. Donc, c'est ça, ma mère finit par décider de s'en aller de cette relation de couple toxique. Mon père a déjà quelqu'un d'autre qui fait rentrer dans la maison le lendemain où ma mère quitte. Donc, c'est vraiment violent comme situation. Tu sais, aujourd'hui, je repense à ça, puis je suis comme, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais je pense que mon père aussi, ses défauts, ça lui appartient à lui. Aujourd'hui, je lui en veux moins, mais je lui en veux encore. J'ai pas encore réussi à lui pardonner totalement. Donc, en toute honnêteté, j'essaye, là, puis je demande à Dieu, mais c'est difficile. Donc, on va se ramasser avec ma mère, moi, ma petite sœur, puis moi, je vais grandir, puis ma mère est très, très déprimée, encore plus étant donné qu'elle se retrouve seule avec nous. Et là, je vais devenir... une personne un peu comme Dr. Jekyll and Mr. Hyde, c'est-à-dire que la semaine à l'école, je vais bien, j'ai des bonnes notes, j'ai tout le temps 98-99-100. C'est pas pour me vanter, mais je suis vraiment douée à l'école, mais j'ai une colère en dedans de moi que je vais manifester juste à la maison devant ma mère et ma sœur. Donc, je vais répéter ce que j'ai appris. Donc, moi aussi, je vais frapper dans les murs. Je vais insulter ma mère et ma sœur. Je vais lancer des objets et c'est ça, je vais aussi faire mal à ma petite sœur. Donc, je suis une petite fille qui a beaucoup de violence puis d'agressivité, mais à l'école, je le montre pas. J'ai appris à avoir déjà un masque. Donc, les années passent, on déménage, ma mère nous trouve un meilleur environnement, donc on déménage, puis là, ben c'est ça, je me fais quelques amis, mais je suis quand même quelqu'un qui a peur de s'exprimer en public. Tu sais, Alcoolique Anonyme a changé ça, là, mais au départ, j'étais très isolée, très effacée, aucune confiance en moi. Ma seule valorisation passait par les notes. Quand j'allais chez mon père, ben sa blonde était pas vraiment gentille avec nous. Moi, je me sentais de trop. En fait, je savais qu'on était trop dans sa vie. Puis, elle m'a carrément dit, quand j'avais 12 ans, que si je venais habiter avec eux, ben que mon père arrêterait peut-être d'être violent avec elle. Donc, elle m'a transmis cette responsabilité-là de faire en sorte que mon père soit plus gentil avec tout le monde. De là est née la culpabilité. Donc, aujourd'hui, je suis capable de mettre un doigt là, sur d'où ça vient, cette bébite-là, la culpabilité qui m'a habité des années. J'ai aussi fait un gros travail personnel en lien avec des cours universitaires récemment, donc ça a encore plus été chercher un petit peu les causes, mais comme je disais, c'est pas pour ça que j'ai bu. Par contre, à 12 ans, à 13 ans, je m'en vais vivre chez mon père parce que je me sens responsable du comportement de mon père, puis là, je vais vivre l'horreur. Là, je vais voir de la violence conjugale pour la première fois de ma vie. Je vais voir mon père frapper cette femme-là. Faut dire, puis c'est pas pour excuser mon père, mais il y avait vraiment une dynamique malsaine où cette femme-là provoquait mon père beaucoup jusqu'à temps qu'il en vienne au coup. Et après ça, pour se victimiser. Donc, c'était vraiment un triangle très malsain. Et croyez-le ou pas, ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort à elle, il y a 2 ans. Donc, nous, on a vécu 37 ans de dysfonctionnalité. Les enfants de cette femme-là aussi en sont sortis très perturbés. Donc, à partir de ce moment-là, moi puis ma demi-sœur, on va découvrir l'alcool. On va voler de l'alcool dans le bar, puis dans... Il y a beaucoup de caisses de bière chez mon père, tu sais, fait que ça passe un peu inaperçu. Fait que nous autres, on va aller sur la rue Racine, à Chicoutimi. Au Saguenay, ça boit très bien et je peux vous certifier que personne ne nous avait carté. On était dans un bar à 13, ma demi-sœur avait 12, donc on était dans un bar qui s'appelait le Potin à Chicoutimi, je vais tout le temps m'en rappeler. Donc, première brosse, on est malade, mais le lendemain, on se regarde puis on dit « on recommence la semaine prochaine ». Parce que, enfin, on se sent bien, tu sais. Je parle en son nom, mais parce qu'on en a déjà parlé, elle et moi, elle n'est pas dans une fraternité, mais elle aussi fait beaucoup de travail personnel. Donc moi, ma boule d'anxiété va s'en aller, puis je vais avoir beaucoup plus confiance en moi quand je suis en état de consommation d'alcool. Donc là, je découvre une recette pour me sentir mieux dans ma peau, tu sais. Puis, on n'a pas de conséquences, nous autres, tu sais, puis je veux dire, on fait pas mal qu'est-ce qu'on veut parce que nos parents eux-mêmes sont aux prises avec des problèmes. Donc, nous, on est laissés à nous-mêmes, puis on fait qu'est-ce qu'on veut, on consomme, puis on vole de la boisson, puis... Sauf que moi, après cette année-là, je veux m'en retourner avec ma mère. J'ai vraiment un attachement plus profond avec ma mère par rapport à mon père. Donc, je me sens beaucoup plus en sécurité, donc je veux retourner avec elle. Puis c'est drôle parce que récemment, on a reparlé de tout ça, puis elle m'a dit, tu sais, Nadine, ton regard avait tellement changé quand t'es revenue de là. Puis elle s'en veut parce qu'on y a pas dit, tu sais. Moi, j'avais caché ça, mais elle dit, si j'avais su ça, tu serais plus jamais retournée là. Mais tu sais, la loi du silence, nous autres, on se faisait dire de pas parler. Donc, parce que ça... Puis encore là, mon père, l'autre fois, il me disait, « Ben, tu sais, dans toutes les familles, il y a des problèmes. » Ben ouais, c'est... Regarde, yeah. It's all good. Aujourd'hui, je travaille sur moi, je travaille plus sur lui. Fait que, tu sais, quand je vais revenir avec ma formule magique, la consommation. Moi, j'ai découvert quelque chose au Saguenay. Je le ramène avec moi. Sauf que moi, ma mère boit pas. Donc là, ça va être beaucoup plus difficile de se procurer de la consommation. Encore là, très particulier, je conserve mon personnage de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que la semaine, je performe, je vais dans un collège international, donc pour les gens doués. Mais là, mes notes ont descendu. Parce que la fin de semaine, j'aime faire autre chose maintenant. Puis c'est d'aller consommer. Puis ma consommation, même à l'âge de 15 ans, c'est la même chose qu'à l'âge de 33 avant que j'arrête. Il y a un pattern, c'est que quand je commence... Une gorgée, je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter. Je me rappelle de rien. Je fais des blackouts. J'ouvre une parenthèse, je découvre les drogues. Moi, j'ai consommé presque toutes les drogues, sauf l'héroïne, puis les trucs de piquage, puis le crack, parce que j'avais un certain snobisme dans ma consommation qui m'a préservée. Mais moi, la coke a fait beaucoup partie de ma consommation parce que, un, ça me faisait boire plus, puis j'étais quand même réveillée. Et ça me donnait un boost de confiance. Puis ça, c'est vraiment ça que j'aimais aller chercher, tu sais. Puis Nadine, c'était toujours, bon, où est Nadine? Hein? C'était pas où est Charlie. Nadine est rendue adolescent où on se retrouve dans des parties ou au parc en Grignon à jouer à Rambo pour se cacher des policiers, parce que c'était ça qu'on faisait. On faisait des feux et on se cachait des policiers. J'ai toujours eu un côté opposition rebelle face à l'autorité. Ça a été... c'est encore présent, je dirais. Mais je suis devenue une autorité, fait que c'est très drôle, vous allez voir plus tard. Je suis devenue une forme d'autorité moi-même. Mais c'est ça, tu sais, suite à ça, là, on passe au bar. Et que j'ai aimé ça, les bars, là. Puis dans le temps, dans les années 90, à chaque soir, il y avait une thématique. Fait que lundi, c'était le Black Monday au Foufoun électrique. Le mardi, c'était au Loft. Le mercredi, au Purple Haze. Je m'en rappelle encore, tu sais, pendant des années... On avait nos soirées, puis à ce moment-là, j'étais rendue en appartement. J'avais lâché l'école. Moi qui étais, on se rappelle, une première de classe, j'allais plus au cégep. J'ai fait une session, j'ai coulé tous mes cours parce que je consommais. Là, la consommation a pris toute la place pour la première fois de ma vie. Là, il n'y avait plus de double personnage. Il y en avait juste un, puis c'était le personnage Mr. Hyde, sa brosse. Fait que là, c'est sûr que toute ma famille était découragée, tout le monde était comme « Ah, oh, qu'est-ce qu'on va faire avec Nadine? Qu'est-ce qui va arriver? »
On vient de commencer à entendre l'histoire de Nadine, son enfance, en fin de compte, son enfance qui était dans une famille dysfonctionnelle, puis toutes les blessures hein, qu'elle a rencontrées, jusqu'à ce qu'elle grandisse, parce que c'est une petite fille douée, là, c'est ça qu'on a compris, jusqu'à ce qu'elle grandisse, puis que là, elle rentre dans le monde de la consommation. Alors, on part pour une pause publicitaire.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre « Les alcooliques anonymes », 4e édition, et c'est la page 51. Notre impuissance nous posait un véritable dilemme. Il fallait trouver une force grâce à laquelle nous pouvions vivre, et ce devait être une puissance supérieure à nous-mêmes. Évidemment, mais où et comment trouver cette puissance? C'est justement le sujet de ce livre. Le but principal est de vous permettre de découvrir une puissance supérieure à vous-même qui résoudra votre problème. Nous avons donc écrit un livre et nous croyons qu'il est autant spirituel que moral. Cela signifie bien sûr que nous allons parler de Dieu. Voilà une difficulté pour les agnostiques. Alors, maintenant, nous poursuivons avec Nadine, qui était maintenant au début de sa consommation d'alcool. Et puis, donc, à toi, Nadia.
Oui, en fait, c'est Nadine, mais tout est correct. Parce que je vais faire une rétrospective. Mon père voulait m'appeler Nadia au départ. Alors, ma mère lui a dit non, tout le monde va dire Nadia. Alors, on va l'appeler Nadine à la place, mais mon prénom initial était supposé être Nadia, alors c'est peut-être juste un lapsus. Donc, je poursuis, j'enchaîne où j'étais rendue finalement, la vie de bar. Alors, ça a été une progression. Hein? Souvent, on lit dans la littérature que c'est une maladie progressive, l'alcoolisme. Donc, j'ai passé de consommer les fins de semaine uniquement à tous les jours de la semaine, lorsque j'étais au cégep. Et j'ai lâché l'école, j'ai failli me faire mettre dehors du restaurant où je travaillais parce que je sentais la tonne en bon québécois et je dormais pas de la nuit puis j'allais travailler. Donc, c'était pas un service à la clientèle très optimal. On pourrait dire que j'étais très impatiente avec les clients. Donc, j'ai rencontré quelqu'un dans cette période tumultueuse et je suis tombée enceinte. J'ai décidé de le garder. Donc là, ça a créé une commotion partout dans ma famille, mes amis, tout le monde était là. « Ah, on va appeler la DPJ tout de suite, genre un an avant que l'enfant naisse. » Aujourd'hui, avec le recul, je comprends pourquoi les gens ont réagi comme ça. Puis c'est sûr qu'au début, ça m'avait blessée à cette époque-là, mais aujourd'hui, je le comprends parce que je me regarde à ce moment-là, puis moi aussi, j'aurais dit ça de moi-même. Tu sais, j'étais pas dans un état pour à devenir mère. Par contre, ce que ça a fait, c'est que j'étais rendue dans un appartement, mais tu sais, je vivotais d'une place à l'autre parce que j'avais plus grand monde qui voulait rester avec moi, on va se le dire comme ça, parce que j'étais vraiment dans le bas fond, là. Tu sais, moi, j'étais rendue à un stade où je me pissais dessus littéralement dans l'autobus de nuit au centre-ville pour retourner whatever où j'allais, Notre-Dame-de-Grâce, là, mon appart qui était... Mais j'étais vraiment, puis ça, faut que je m'en rappelle, je m'urinais dessus. Je me mettais en danger, je partais avec n'importe qui. Donc, c'est vraiment le fait que je sois tombée enceinte, j'ai décidé de le garder, puis c'est vraiment spirituel parce que je sentais que ça allait m'amener ailleurs, puis que moi, je suis quelqu'un qui était vraiment en détresse émotionnelle. Puis oui, j'ai fait ça un peu égocentrique de dire que j'allais quelqu'un qui allait m'aimer tout le temps. Je pense que c'est inconscient, puis c'est correct aujourd'hui que je le reconnaisse, tu sais. Donc, le père, évidemment, est parti à la course parce qu'on était deux jeunes dans la vingtaine, puis lui, c'est un alcoolique encore aujourd'hui, là, mais... Quand j'ai eu ma grossesse, j'ai perdu l'envie de consommer. Moi, je me suis pas battue avec ça, puis ça a été une des plus belles périodes de ma vie. Donc, j'avais goûté à ce bonheur-là de l'abstinence à la grossesse que j'ai eue. Puis, quand j'ai accouché, je me souviens, je me faisais des promesses là que mon fils me viendrait pas consommer comme moi j'avais vu mon père, puis que j'allais vraiment faire attention, puis que moi, ça allait pas être pareil. Bon. La maladie est plus forte que moi, hein? Donc, quand j'ai recommencé à sortir, après trois mois que j'ai accouché, là, j'avais envie de voir mes amis. Fait que le premier jour de retour dans un bar, même chose qu'avant. Je me ramasse blackout, je déboule les escaliers, puis là, j'ai honte le lendemain, puis je pleure. Ça va être ça tout le temps. Fait que, tu sais, je vais pas vous compter une ou des brosses. Ce n'est qu'une suite de blackout et de culpabilité et d'événements honteux. OK? Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a eu des valeurs de mes parents. Tu sais, mon père m'a quand même transmis des belles valeurs. Le travail, faire qu'est-ce qu'on aime, être passionné, vivre notre vie comme on veut avec nos passions, puis tout ça. Puis moi, j'avais toujours voulu être prof ou, tu sais, être travailleuse sociale. Mais tout ça, tu sais, ça a commencé à revenir, veux pas. Fait que là, j'ai recommencé à étudier. J'ai fait une technique en éducation spécialisée. Puis là, le retour de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est que la semaine, je faisais mes études, je me couchais à minuit pour étudier. Tu sais, avec un fils monoparental, c'était tough, mais j'ai quand même réussi à finir ces études-là. Puis... là, par exemple, ça a commencé à me déranger ma consommation parce que je travaillais avec des ados dans une école de troubles de comportement. Fait qu'eux autres, à l'heure du dîner, ils allaient fumer du pot, là. Ou ils buvaient même des fois. Mais je me rappelle une fois où je leur avais fait un speech, puis je leur avais dit « Mais tu sais, votre consommation n'est pas responsable, là. » Puis là, bang, là, c'est moi qui dis ça, puis là, je fais « Asti d'hypocrite. » Là, c'est l'honnêteté qu'on parle dans la littérature, c'est l'honnêteté envers moi-même que j'avais pas, qui m'est apparue d'en face. Fait que j'avais quoi, 27 à ce moment-là? Fait que j'ai commencé à aller me chercher de l'aide, fait que j'étais allée à Dollard Cormier, puis le monsieur, j'avais dit, il s'appelle Louis-Jean, je vais jamais l'oublier, cet homme-là, puis lui, il a accepté ça. Moi, je disais, je veux pas arrêter complètement, je veux juste me contrôler. Il dit « OK, on peut essayer, tu sais, mais on va voir avec le temps puis avec les expériences, tu sais. » Fait que lui, il m'a suivi 2 ans. Puis ça a été, suite à ça, lui, il a conclu avec le fait que j'étais un cas d'abstinence, tu sais. Mais même ça, ça m'a pas fait aller d'un meeting tout de suite. Le pattern continuait, là. La semaine, là, en plus, j'avais commencé des études universitaires pour devenir prof. Puis je vais tout le temps me rappeler, il y a un prof qui avait dit dans un cours que perdre un brevet d'enseignement, c'est irréversible. Tu peux pas le réavoir. Puis qu'on doit toujours être des modèles aux yeux de la loi. Puis qu'il y a un étudiant qui s'était saoulé la gueule dans un cimetière, puis qui s'était fait arrêter par les policiers, puis qu'à cause de ça, il avait perdu son brevet. Donc ça, ça m'avait marqué. Puis là, j'avais commencé à penser à ça, au fait que j'étais pas capable de me contrôler. Le Louis-Jean, mon intervenant, me dit que j'étais un cas d'abstinence. Mes élèves, les jeunes, là, je me trouve hypocrite. Mon fils vieillit, puis là, il commence à voir sa mère de quoi qu'elle a l'air saoule. Fait que ça aussi, là, il y a des enjeux qui vont se développer. Fait que ce que ça fait, c'est que là, la culpabilité que je vous ai parlé tantôt, là, est au paroxysme, là, est vraiment au max. Là, je suis paranoïe, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu? Est-ce que je vais perdre ma job? Écoute, là, c'est rendu insoutenable. Fait que, tu sais, on le dit dans la littérature, la prison, la folie ou la mort, ben moi, je vais me ramasser en psychiatrie. Parce que là, je veux me tuer, là, à un moment donné. Je vais virer une brosse, là. Puis je vais être au centre-ville, puis je vais consommer aussi des drogues. Puis je me ramasse avec du monde que j'ai pas d'affaires. Dans un endroit où j'ai pas d'affaires. Puis là, ça a fait, ben, gars, mon fils, il est mieux d'être dans une famille d'accueil ou de rester avec ma sœur. Gars, moi, je mérite pas d'être une mère, puis je mérite encore moins d'être un prof. Fait que c'est ça que ça a donné, moi. La consommation m'a amené à la folie de vouloir me tuer. Puis là, je pleurais dans un taxi, tu sais, j'avais des pieds tout noirs, puis je marchais plus de talons hauts dans la rue de Sainte-Catherine. Écoute, ça, là, faut pas que j'oublie ça, mon bas-fond, là. Faut pas oublier d'où on vient. Moi, c'est ça qui fait que j'ai pas le goût de retourner. J'ai peur de retourner là. Fait qu'il y a un chauffeur de taxi qui m'entend pleurer puis qui dit « Madame, voyons, voulez-vous que je vous amène en quelque part? » Puis je dis oui. Mais je sais même pas pourquoi. Je le connais pas, lui. Mais tu sais, Dieu passe à travers les êtres humains. Moi, je pense que ce monsieur de taxi-là, c'est un ange dans ma vie, tu sais, qui est passé. Puis il m'a emmené à l'hôpital Douglas puis il m'a dit « Madame, faut pas que vous vous tuez. Votre fils a besoin de vous. » Fait que je suis restée hospitalisée 2 jours. Et ils m'ont donné des calmants parce que je suis rentrée en crise, puis je pleurais, puis j'étais comme... Ah. Puis finalement, le psychiatre, après 2 jours où on a discuté puis tout ça pendant ces 2 jours-là, il connaissait mon parcours à Delors Cormier, j'avais rien caché, puis il m'avait dit « Madame, vous êtes alcoolique. » Puis pour la première fois de ma vie, j'ai dit « oui ». Donc, j'ai admis que j'étais alcoolique. Je ne l'ai pas tout de suite accepté facilement, mais je l'ai admis. Fait que là, lui, il m'a dit, « Ben là, il y a un meeting AA à Verdun, donc pas loin de l'hôpital, dans 30 minutes. » Ben, croyez-le ou pas, j'ai pris mon bicycle. J'étais allée chez nous. Moi, je restais pas loin de l'hôpital psychiatrique. J'ai arrêté chez nous. Je me suis même pas lavée. J'étais allée direct au meeting. Et là, j'ai eu un accueil. J'oublierai jamais l'accueil que j'ai eu. Moi, je faisais rien que pleurer, puis tout le monde était là. « Ouais, bravo! » Là, je comprenais rien. Pour une fois, j'avais même pas à être quelqu'un, puis à être cool, puis on m'aimait. J'avais pas à performer pour être... On m'aimait peu importe avec ce que je disais, tu sais. Fait que j'ai rencontré ma première marraine. Puis c'est sûr que, regarde, je vais être honnête, là, à chaque 3 semaines, je rechutais. Ça a été ça, moi, mon rétablissement. Les un an et demi, là, je rechutais aux 3 semaines. Donc, moi, la grâce instantanée, c'était pas mon cas. Je m'avais des portes ouvertes, comme je vous dis, j'avais pas totalement accepté. Puis souvent, tu sais, le milieu de l'éducation, c'est pas tout le temps des saints là, qui sont là. Il y a du monde qui veut des brosses, puis les 5 à 7, il y a de l'action. Fait que j'avais comme de la misère à faire le deuil de ça, tu sais. Le deuil des restaurants aussi avec des amis. Donc, il a fallu que je fasse un certain deuil.
Merci Nadine, on vient d'encore apprendre à connaître davantage là, ton rétablissement, mais aussi ton début en fait, ton entrée chez les Alcooliques Anonymes, mais aussi tout ton parcours, là, tes études, comment l'alcool était toujours présent, puis où ça t'a amené. ton bas-fond. Fait que merci, puis on se revoit tout à l'heure après la pause.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet Un jour à la fois, trait-d'union-émission.org, te donnera accès à nos tout nouveaux podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivée de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur tous appareils intelligents. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager ton histoire personnelle de rétablissement. Alors, nous poursuivons le partage de Nadine qui était rendue à nous expliquer comment elle s'est sortie de son bas-fond, son entrée aussi à l'hôpital psychiatrique. Puis là, ben, finalement, sa première rencontre avec les alcooliques anonymes. Et donc, tout de suite, nous allons entendre la suite.
Donc, oui, c'est ça, mon premier meeting hein, qui m'a marqué. Et en fait, j'ai eu un petit peu la chance, l'anonymat de Dieu s'est manifesté rapidement parce qu'aujourd'hui, je sais que la chance pour moi, c'est Dieu qui agit dans ma vie. Je vais vous parler de ma spiritualité éventuellement. Mais... j'ai rencontré une femme extraordinaire à ce meeting-là qui m'a accompagnée pendant 3 ans et demi, tu sais, puis elle a cru en moi, tu sais, puis malgré les rechutes que je faisais, elle me disait « tu vas voir, à un moment donné, ça va être la bonne », puis tu sais, elle m'avait acheté mon premier livre des réflexions quotidiennes, puis elle m'avait écrit « ça, c'est ta date, puis ça va marcher », puis... Puis elle m'a aussi fait connaître les intensifs. J'ai fini par accrocher, tu sais, puis... En fait, ma première date, ça a été le 28 février. Puis c'est ça, j'ai fait des intensifs aussi, puis ça m'a vraiment aidée. Parce que comme j'étais une fille bien occupée avec un enfant monoparental, je pouvais peut-être pas faire autant de meetings que je voulais dans la semaine. Fait que le fait d'aller 4 fois par année en intensif m'a vraiment fait aller profondément en moi. J'ai eu des expériences spirituelles avec un prêtre incroyable. Que, tu sais, que je décrirais, à part dans le mouvement, que les gens me diraient « t'es folle », mais non, tu sais, moi, j'y crois. Ça m'a permis de guérir une partie de mon enfance, tu sais, de... Puis, tu sais, là, j'ai amorcé aussi un travail avec les étapes, tu sais, qu'on parle les 12 étapes, ben, tu sais, j'essaie de vivre les étapes du mieux que je peux, mais j'ai aussi fait les étapes expliquées puis étudiées avec ma première marraine. Donc, on avait un groupe, puis on lisait les étapes dans le 12-12, puis on en parlait, tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidée, puis j'ai fait 2 fois une 4 et 5. Ça aussi, ça m'a libérée. J'avais des choses que je partagerais pas à la radio, parce que ça fait partie de ma 4e, mais je me disais, tu sais, je croulais sous la honte, puis je me disais, mon Dieu, que si quelqu'un savait ça, oh là là, hein, le brevet d'enseignement, on revient à ça. Fait que là... Le fait de brûler cette lettre-là puis de partager à un autre être humain, ça a été vraiment libérateur pour moi, de me libérer de la culpabilité. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, après plusieurs 24 heures, j'en ai presque plus de culpabilité. J'ai tellement prié pour que ça parte. Parce que même dans le rétablissement, je me sentais coupable de ne pas donner un livre à mon ami, de pas... Parce que j'ai découvert aussi que j'avais une grosse dépendance affective. Puis, tu sais, j'ai eu une rechute, moi, après 3 ans et demi, puis c'était dans une autre substance, mais c'était aussi beaucoup dans des comportements. Tu sais, j'ai fait du meeting à Bordeaux, puis pendant 2 ans, ça s'est très bien déroulé. J'étais capable de mettre des limites aux détenus, puis tu sais, j'allais vraiment là pour les bonnes raisons. Mais la 3e année, il y a quelqu'un qui est arrivé dans ce meeting-là, puis moi, j'étais plus fragile au niveau affectif. Ça, c'est très... très, très mal déroulé. Donc, après le temps qu'il soit sorti, c'est sûr qu'en dedans des murs, il était bien gentil, tout ça. Puis, tu Puis tout le monde m'avait prévenu là, de faire attention, puis tout ça. Puis dès qu'il est sorti, qu'il est allé dans une thérapie, il s'est fait mettre dehors parce qu'il était agressif. Tu sais, déjà là, c'était des signes, mais je les ai tassés. Aujourd'hui, avec toute l'honnêteté que j'ai envers moi-même, je les ai vus, les signes, venir de toute sa violence. C'est un être humain hyper malade, là, qui m'a fait subir tous les types de violences que vous pourrez imaginer. Tu sais, genre se faire brûler avec une cigarette, se faire étrangler dans une cuisine quand ton fils est dans le salon. Ce gars-là m'a vraiment fait peur, puis même je pensais que j'allais mourir. Je pensais plus que j'allais vivre. Puis tu sais, aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans les médias, faut prendre ça au sérieux. Puis ça arrive même à des gens qui ont de l'éducation, comme moi, mais ce qui est profondément déficiente au niveau de l'affectif. Puis c'est ça que je me suis rendu compte. Fait que j'ai fini par porter plainte à la police, puis j'ai été dans une maison de femmes pour victimes de violences pendant 3 mois, puis j'ai fait 10 heures de thérapie sur la dépendance affective par semaine. Et ça, ça m'a aidée profondément. J'ai compris pourquoi j'allais chercher ce type d'homme-là. Hein, tout le temps, tu sais, bon, il y a plein de théories psychanalytiques, là, j'irai pas là-dedans dans un partage AA, mais j'ai compris des choses aussi en étudiant à l'université l'année passée. J'ai mis en place des morceaux du casse-tête, puis j'ai compris pourquoi j'allais chercher des miettes. C'est tout ce que j'avais connu. J'avais jamais connu une assiette au complet, moi, là. Fait que, puis tu sais, mon fils m'en a voulu beaucoup suite à ça, parce que là, enfin, sa mère était dans le rétablissement, puis whoops, encore une fois. Fait que moi, je m'en suis voulu beaucoup, puis lui, il m'en a voulu, mais on... Là, aujourd'hui, on... C'est ça que ça donne, les étapes. J'ai fait des amendes honorables souvent. Même hier, je pleurais. Tu sais, là, je suis dans une époque très hormonale de ma vie, donc j'ai les émotions souvent en dents de scie. Hier, j'étais beaucoup dans la mélancolie, puis je disais, je m'excuse, Justin, tu sais. Puis il disait, maman, c'est correct. Aujourd'hui, t'es correct. Puis, tu sais, mon fils, aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de moi. Fait que si j'avais pas eu Alcoolique Anonyme, je pourrais pas le soutenir. Tu sais, lui, il a eu des problématiques au niveau de sa santé mentale. Puis c'est lié à la consommation. Puis il nomme, il dit « Maman, je suis pas capable d'arrêter de fumer du pot. » Mais, je vous dirais que, tu sais, il y a quelques semaines, j'étais pas dans mon programme. Parce que, on le dit, hein, aucun être humain n'aurait pu nous délivrer de notre alcoolisme ou de notre toxicomanie. Même pas maman va pouvoir te délivrer, mon beau garçon. C'est Dieu. Fait que c'est drôle, mais on a des conversations full profondes, tu sais, maintenant qu'il est rendu à 23 ans, genre, ben, tu sais, maman, moi, je pense que Dieu, il m'aime pas. Ah, ben, je fais, ça veut dire, tu y crois de bord. Ah, intéressant, il y a de quoi explorer, là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, puis on parle de rétablissement, c'est sûr que mon fils, il dit souvent, ben, tu sais, c'est comme une secte, là, vos meetings. Fait que là, moi, je dis en riant, regarde, j'aime bien mieux être addict à des meetings puis vivre une vie heureuse, joyeuse et libre, tu sais, puis je me sens pas mal le lendemain, puis... Puis tu sais, c'est sûr qu'il entend les meetings en ligne, il gravite, puis tu sais, là, jeudi passé, je faisais un meeting différent avec une de mes amies, puis tu sais, on est une petite gang qui a consommé ensemble, puis maintenant qui est rendu dans un rétablissement, fait qu'il y a une de mes amies qui a parti à un meeting, un de mes amis qui a parti à un meeting multidépendance, tu sais, puis... Lui, il a connu mon fils. Fait que quand il le voyait marcher en arrière, mon fils, il traînait plus que d'habitude dans la cuisine, tu sais, parce que c'est là souvent que je fais mes meetings. Fait que j'ai fait garde. C'est ça qui arrive quand tu fais confiance à Dieu. Faut que j'arrête. Puis c'est beaucoup ça, là, où je suis rendue dans mon rétablissement. C'est que ma troisième étape, je la fais pas tout le temps, tu sais. Des fois, je vais reprendre le contrôle de ma vie. Puis c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, tu sais, parce que je deviens anxieuse, je deviens enragée, mais moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Fait qu'un anxieux, ça contrôle pour gérer son anxiété, tu sais. Sauf que, garde, j'ai 12 étapes. J'ai une marraine que j'appelle plus souvent qu'avant. Merci, mon Dieu, la pandémie a fait en sorte qu'il y a eu de la création de meetings en ligne. Et pour moi, avec ma vie effrénée, c'est parfait. Et je me suis fait un groupe d'attache génial. Donc, tu sais, c'est ça. C'est sûr que je trouve ça dur en ce moment parce que mon trouble d'opposition se fait aller. Moi, quand tu me dis de pas faire ci ou ça, j'ai juste le goût d'aller faire le contraire. Fait que je trouve ça difficile, mais il y a la page 464 du gros livre qui nous parle de l'acceptation puis qui nous dit que l'acceptation est la solution à tous nos problèmes. Fait que ça, c'est ma marraine qui me le rappelle, tu sais. Puis c'est le fun parce que aujourd'hui j'ai une marraine autre, tu sais, comme je vous avais dit, là, j'ai changé de marraine. Puis, mais avec elle, j'ai pas peur d'être qui je suis non plus parce qu'elle est comme moi, tu sais. Elle aussi, elle connaît ça, l'agressivité puis la violence intérieure. Fait qu'on dirait que je me sens vraiment à l'aise d'être qui je suis, tu sais, avec elle. Puis, tu sais, dans le fond, j'échangerais pas ma plus belle journée dans ma phase de consommation contre ma pire journée d'abstinence. C'est sûr, c'est rough ces temps-ci. Financièrement, j'ai des enjeux. J'ai décidé de faire une proposition au consommateur. Donc là, je vis de l'insécurité financière, mais faut que je confie à Dieu. Dieu, il va me mettre sur ma route que j'ai besoin. Il l'a toujours fait. Même quand mon fils avait 2 ans, on vivait dans un petit 3,5. J'avais toujours de la bouffe sur ma table. Bon, c'était pas un filet mignon, mais c'est pas grave. On va en manger des saucisses porc et bœuf puis du beurre de peanut, puis c'est correct. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de voir la vie comme ça. Là, c'est pas toujours comme ça. Des fois, je suis enragée. Des fois, je pleure. Comme je vous dis, là, je suis dans la quarantaine, mi-quarantaine, donc je pense que j'amorce une nouvelle phase de ma vie hormonale et ça paraît dans mes humeurs et dans mes relations avec mon conjoint qui me trouve très contrôlante. Fait que j'essaie de lâcher prise puis d'arrêter de dire quoi faire, tu sais, parce que c'est ça, vivre à deux. Lui, il est plus soumis, fait mais faut quand même que je respecte comment il est puis j'arrête de le pousser, tu sais, fait que c'est ça, je fais des prises de conscience puis en tout cas, pour l'instant, mon partage, c'est tout ce qui montait pour aujourd'hui. Donc, je vais finir avec, dans le fond, avec une
merci Nadine. On a entendu dans son partage, dans cette section, qu'elle nous a parlé du gros livre. Alors le gros livre, c'est le livre Les Alcooliques Anonymes, un livre qu'on utilise énormément dans le mouvement des AA. Et puis Nadine nous a partagé aussi sur ses déficiences, puis Les Alcooliques Anonymes, là... Oui, c'est avec le programme Un mode de vie, on arrête notre consommation, c'est notre but premier. Mais par la suite, on a aussi tous les comportements des alcooliques qui viennent aussi avec l'alcoolisme. Alors, cette maladie-là, elle est aussi mentale, elle est aussi physique, puis elle est aussi spirituelle. Donc, voilà un peu ce que nous a introduit aussi à cet aspect-là dans son partage, Nadine. Donc, nous allons à une pause et puis nous revenons tout à l'heure. Merci.
Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au AA.org. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, tu consultes le site internet aa-québec.org où tu trouveras, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de ta région, si tu ressens le besoin de parler, la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme. Nous allons poursuivre le partage de Nadine. Elle nous parlait aussi de sa spiritualité. Elle nous a parlé de sa rencontre avec Dieu, comment Dieu agit. Elle nous a parlé de son fils. On va continuer à écouter son partage.
Donc, oui, pour poursuivre avec l'aspect spiritualité, c'est sûr que, tu sais, dans la littérature, on en parle que au niveau des étapes, hein, quand on parle de donner notre vie aux soins d'un Dieu tel qu'on le conçoit. Pour moi, ça n'a pas été difficile parce que même tout petite, je croyais en Dieu. J'ai le souvenir de ma grand-mère, Ricelle, qui m'amenait à l'église à Marieville. Écoute, c'est... Je m'en souviens comme si c'était hier, puis j'aimais ça. J'ai toujours aimé, moi, entendre parler de Jésus, un homme qui avait une histoire plus grande que nature, tu sais, quelqu'un de bon, qui jugeait pas personne. Moi, j'ai acheté ça, là, jeune enfant, puis je faisais partie des groupes de pastorale, puis tu sais, sauf que ce qui est particulier, c'est que quand j'ai amorcé ma crise d'adolescence puis ma consommation, j'avais souvent le poing dans les airs, puis je parlais à Dieu, mais je disais « T'es où? » Puis Fait que dans ma tête, je pensais que j'y croyais plus à ce moment-là, mais dans le fond, c'est parce que je pensais qu'il m'avait abandonné. Puis je l'appelais à l'aide, mais un peu tout croche, tu sais. Fait que c'est sûr qu'adolescente, jeune adulte, j'étais révoltée, donc j'étais révoltée aussi contre Dieu, parce que moi, dans ma tête, c'était comme... Je voyais aussi... Je pensais que Dieu, il se revengeait par rapport à mes comportements, tu sais. Donc j'avais encore l'image du Dieu vengeur, un peu... tradition judéo-chrétienne, hein, veux, veux pas, c'est un petit peu notre historique, les Québécois de souche, donc c'était un peu ça, tu sais, puis jusqu'à temps que j'arrive en intensif dans un environnement aussi très spirituel, ça m'a vraiment confortée. Puis j'ai rencontré un prêtre, un jeune prêtre, puis il a été comme de passage dans cet intensif-là, il est pas resté longtemps, puis je me souviens que quand il m'a pris la main puis qu'il m'a dit, là, on va aller voir la petite Nadine. C'était ça, ma première expérience spirituelle marquante. Je me suis vraiment revue dans la petite fille de 4 ans qui courait. Puis là, je pleurais avec le prêtre, puis je me libérais de ce sentiment d'abandon-là qui me collait à la peau. Puis qui faisait en sorte que j'étais dépendante affective, puis je faisais peur aux hommes. Parce que moi, t'arrivais, puis c'était... Tu sais, là, « Hey, va-t'en pas! » Vas-tu t'en aller? Pourquoi tu m'appelles pas? C'était ça, moi. Puis j'allais pas vers les personnes qui allaient me faire du bien. J'étais comme un peu dans le sauveur. Fait que, tu sais, c'est plate, mais l'épisode avec le gars de Bordeaux, ça a été un bas-fond au niveau affectif. Puis moi, je pense que ma puissance supérieure a toujours été là. C'est juste que je l'ai pas écouté. Il me le disait. Tasse-toi de là. Retourne faire du meeting. Va-t'en de là. Mais aussi, j'étais paralysée par la peur. Puis, tu sais, ça, c'est important que j'en parle parce que s'il y a une femme qui vit ça, un, je te comprends. Deux, moi, j'ai eu honte parce qu'il y a des gens dans ma famille qui m'ont fait sentir que c'était de ma faute. Ben, t'es allée là, c'est toi. Tu sais, puis c'est quelqu'un qui est en relation d'aide qui dit ça. Là, c'est comme OK, là, c'est rough en crise d'entendre ça. Mais c'est correct, cette personne-là aussi souffrait à ce moment-là. Correct. Mais je l'ai eu de travers pendant un bout. Tu sais, puis. Par contre, les intervenantes, elles, étaient vraiment, vraiment bienveillantes et m'ont sorti de la culpabilité. T'sais. Puis, il a fallu que j'aille en cours puis que je fasse face à ce gars-là. Puis, Dieu m'habitait quand j'ai témoigné parce que c'est comme si je flottais puis j'avais la tête haute. Puis, en voulant dire, il n'y a plus personne qui va me mettre à terre comme toi, t'as essayé de le faire. Puis, je me relève aujourd'hui parce que je ne suis pas toute seule, j'ai Dieu. Puis j'ai ma marraine qui était avec moi en cours, puis j'avais, tu sais, tout le soutien des gens qui sont vraiment importants dans ma vie. Fait que, tu sais, pour moi, la spiritualité se passe aussi à travers les êtres humains. Tu sais, quand j'ai une filleule, par exemple, qui souffre, qui va pas bien, je la confie à Dieu aujourd'hui. Avant, j'avais tendance à prendre tous les problèmes de mes filleules, puis de me sentir mal, puis de pas savoir quoi faire, puis... Non, aujourd'hui, j'essaie de développer leur autonomie, puis de développer... la spiritualité de leur côté, tu sais. Puis je vous dirais que ça va de mieux en mieux parce que je suis moins en moins dans la partie sauveur, là, tu sais, de quand j'ai des filleules, tu sais, que je prends pas tout sur moi, là. Parce que, tu sais, on va se le dire, il y a des étapes, mais il faut se mettre dedans. Tantôt, j'ai parlé de la quatrième étape, ça, c'est se faire un inventaire, tu sais, de toutes nos problématiques qu'on a eues, à qui on a fait du tort, tu sais. Donc, c'est vraiment de relater un peu tous nos défauts de caractère aussi. Puis de faire d'après ça, de confier à un autre être humain tout ça, tout ce qu'on a d'accumulé, tu sais. Tout ce qu'on a honte. Puis moi, je me souviens, j'ai partagé ma cinquième étape avec ma marraine. Et par la suite, on a été brûler le papier sur le bord de l'eau. Avec, je me souviens, tout le temps, il y avait des canards, puis là, on essayait de faire brûler, puis là, ma marraine, elle disait, « Voyons, elle veut pas partir, cette cinquième-là! » Puis là, il ventait, puis on riait, parce que on a vécu un moment de fraternité, puis c'est ça, le mouvement alcoolique anonyme. C'est une fraternité, donc, même dans des moments super deep, là, où t'es dans l'émotion, ben tu vas retrouver quelqu'un qui va t'accompagner. Puis, tu sais, on le dit, hein, on ne sera plus jamais seul avec le mouvement. Fait qu'aujourd'hui, les étapes, j'essaie de les vivre. J'essaie de transmettre ce simple message à un autre être humain. J'ai deux filleules qui m'appellent, puis que j'essaie d'aider du mieux que je peux. Puis pour mon fils, ben je compte bien aller m'intégrer dans un Al-Anon parce que j'aimerais ça rester dans mes bottines, tu sais, puis je pense que c'est ça qui va m'aider aussi, tu sais. Fait que, je veux dire, au jour le jour, j'essaye vraiment de mettre en action ce simple programme pour des gens compliqués. En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, je suis une fille un peu compliquée, j'ai des sautes d'humeur. Fait qu'il faut souvent que je me ramène, hein, on parlait de comportement. Respirer. OK, Nadine, là, au lieu de dire ce que tu penses, tourne ta langue cette fois avant de, t'sais, puis respire. Tu vas le regretter sinon. Parce que moi, c'est ça, c'est mon impulsivité qui est le comportement qui me met le plus dans le pétrin. Autant sur la route que, tu sais, bon, fait que j'essaie du mieux que je peux de me libérer de mes défauts de caractère, mais je demande à ma puissance supérieure de m'aider. Je ferai pas ça. Aujourd'hui, je veux plus rien faire tout seul. C'est trop dur. Même chose pour mon insécurité financière. Je confie. Puis, je regarde ce que j'ai au lieu de ce que j'ai pas. Hey, j'ai un toit. J'ai une voiture. Je peux venir partager à la radio. J'ai deux jambes. Il y en a qui sont en fauteuil roulant. Merci, mon Dieu. Je regarde ce que j'ai au lieu de ce que j'ai pas. Fait que c'est plus doux pour pouvoir faire face aux problèmes, parce que c'est sûr que dans le rétablissement, il va quand même avoir des problèmes. C'est pas un nuage rose du jour au lendemain qui se passe, là, on mentirait si. Mais c'est plus doux, tu sais, puis ensemble, on réussit à traverser des épreuves, tu sais, je suis plus toute seule pour les traverser, ces épreuves-là, tu sais. Puis, c'est sûr que les meetings en personne me manquent, par contre, je vais recommencer à en faire, là, comme je vais donner un jeton à une de mes filleules d'ici 3 semaines, fait que j'ai bien hâte. Puis juste le fait de voir d'autres alcooliques en personne me donne beaucoup de gaz. Donc moi, j'ai besoin d'un contact humain. J'ai besoin de voir des gens en personne. Puis c'est ça, ça me manque, c'est sûr. Les meetings en personne me manquent. J'aime les meetings en ligne, oui, mais... Moi, d'être en groupe, j'y crois. L'être humain, il est pas fait pour être seul. Puis ça, c'est ma conviction profonde. Il est pas fait pour être isolé dans le fin fond d'une maison, tu sais. Fait que j'ai bon espoir aussi qu'avec le beau temps qui revient, ben il y a eu des créations de meetings extérieurs. Pourquoi pas? Juste aller marcher avec, tu sais, ma marraine, par exemple, sur le bord de l'eau, c'est des choses que je peux encore faire, tu sais. Donc, j'essaie de me trouver des moyens aujourd'hui pour aller bien, parce que oui, il y a les meetings, il y a ma spiritualité, mais je me suis aussi trouvé des passions, comme la boxe. Alcoolique Anonyme m'a permis une chose, d'aller chercher ce que j'avais au plus profond de moi comme talent sportif, parce que j'ai jamais été bonne dans les sports, mais les sports de combat, c'est une autre chose, parce que toute mon agressivité est dirigée vers un but sain. Fait que j'ai réussi à traverser tous mes objectifs en boxe grâce à mon coach, puis j'ai réussi aussi à aller me chercher une certification d'entraîneur Boxe Canada. Donc, si j'étais pas avec Alcoolique Anonyme, je sais, parce que j'avais fait de l'entraînement de boxe à l'âge de 20 ans. Je nommerai pas avec qui, mais c'est des gens aussi qui avaient des problématiques d'alcool. Fait que j'étais pas arrivée à aucun but parce que je consommais. Donc, le fait, les promesses qu'on lit dans Alcoolique Anonyme, ça, c'en est une de mes promesses, moi. Que j'ai réussi à accomplir mes buts dans un sport que j'aimais puis que je voulais faire depuis que j'étais jeune. Puis ça fonctionne. Puis aujourd'hui, ben, je donne des cours en ligne de boxe. Donc, je réussis à faire de ma passion quelque chose d'utile aussi pour d'autres personnes qui sont isolées puis qui veulent peut-être bouger, tu sais. Fait que c'est une façon aussi de m'accomplir. Puis je pense que c'est important que j'en parle, tu sais. Dans Alcoolique Anonyme, il faut se trouver des passions personnelles aussi. Il faut se trouver quelque chose qui nous allume, puis que pourquoi le matin on se lève. C'est ça que moi, mon travail aussi, j'aide des enfants différents qui ont des difficultés, des handicaps ou des difficultés d'adaptation, d'apprentissage. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, Dieu. C'est que Dieu m'utilise pour aider ces enfants-là. Alors, ça m'a vraiment fait plaisir de partager pour vous, puis je vous souhaite une belle fin de journée.
Nadine, merci beaucoup pour ton partage, ta générosité, l'explication des promesses qui sont dans ta vie maintenant, parce que ça, là, c'est nos cadeaux à nous de rétablissement, les promesses dans Alcoolique Anonyme. Puis d'être utile, ça fait partie de nos promesses aussi, puis tu nous as bien expliqué comment être utile, ta vie maintenant est utile aux autres parce que tu ne consommes plus d'alcool. Alors, Voilà. Je tiens à remercier tous les participants de cette émission. Notre invitée, Nadine. Les auditeurs, je vous remercie d'être là. Notre équipe, Richard qui est à la console. Les collaborateurs, radiodiffuseurs. Alors ici votre animatrice Isabelle qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.